Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous. Encore en compagnie des femmes artistes, créatrices au cours du temps et en ce début du XXe siècle, me revoilà encore à tourner autour d'elles et à vous entraîner dans ce Paris foisonnant de créateurs venus des quatre coins du globe pour illuminer l'art et la vie. Hommes et femmes y sont là, peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, photographes, designers, architectes, interprètes en tout genre, en danse, en chant et en comédie également. Or, ce Paris est une véritable plaque tournante de créateurs et en pleine ébullition, ça fuse dans tous les sens. Et même si la postérité retient davantage les noms masculins, il n'en reste pas moins vrai que les femmes prennent aussi leur droit à l'expression, à la création et de façon originale et personnelle. Car bien sûr, les femmes sont là, près de tous nos artistes masculins, en tant que modèles, amantes, amies, épouses, mères, sœurs, mais elles aussi tentent avec plus ou moins de succès de suivre leur chemin artistique personnel. Alors la dernière émission, je vous avais prévenu, encore maintenant, je vais prononcer ces mêmes paroles. Derrière l'artiste masculin, cherchez l'artiste féminin, elle n'est pas très loin. Alors j'avais évoqué des personnalités telles Juliette Roche, Hermine David, Sophie Tauber, Sonia Delaunay. Cette dernière eut une carrière exceptionnelle avec la notoriété qui l'accompagne, et ce au même titre, sinon davantage, que son mari Robert Delaunay. Mais la liste de ces femmes, plus ou moins cachées derrière un mari ou un compagnon, n'est pas terminée. À l'exemple de la Polonaise Alice Alika, née en 1894, qui étudiera tout d'abord aux Beaux-Arts de Cracovie et suivra par la suite des cours à Paris avec les peintres Paul Sérusier et Maurice Denis à l'Académie Rançon. Elle deviendra l'épouse du peintre Louis Marcoussi. Par l'intermédiaire de son mari, elle adhérera d'abord au mouvement cubiste, puis elle s'en détachera pour renouer avec l'école post-impressionniste polonaise, dont elle finira par se démarquer pour suivre son chemin. Alors plutôt hétéroclite, elle illustrera également des ouvrages, des livres d'enfants, puis lors de voyages à New York, réalisera des décors et des costumes de ballet pour le Metropolitan Opera House. Or, c'est quelqu'un qui voyagera quand même beaucoup, et arrivée à la fin de sa vie, elle écrira un roman autobiographique. Or, un petit coup de projecteur sur Valentine Prax, une Française d'Algérie née en 1897, d'origine catalane par le père et sicilienne par la mère. Elle deviendra l'épouse du sculpteur russe Ossip Zadkine, qui la prendra sous son aile toute jeune fille fraîchement débarquée à Paris et l'entraînera au milieu de tous ces artistes venus des quatre coins du monde qui innovent et expérimentent de nouvelles voies artistiques. Au préalable, elle aussi aura étudié la peinture avant de venir à Paris, à l'école des Beaux-Arts d'Alger. À Paris, Zadkine lui conseillera de laisser les écoles et plutôt de fréquenter les musées et les expositions. Apparemment, son conseil sera le bon, car c'est dans le Paris des années 20-30 qu'elle s'épanouira, réalisera une première exposition personnelle, puis une seconde. Alors à ce sujet, je relève la critique que j'ai lue sur un site dédié au musée Zadkine, où vous pouvez lire aussi les biographies, à www.zadkine.paris.fr, qui lui reconnaît une spontanéité fraîche et sans phare, une ingénuité qui se rit de l'ignorance. Bon, c'est un peu grandiloquent, quand même élogieux. Bon, ensuite, elle mènera une vie d'artiste en communion avec Zadkine, chacun suivant sa propre voie artistique. Ils partiront un moment vivre en province, reviendront ensuite à Paris, retourneront dans le Lot où Zadkine créera son atelier de sculpteur. Pendant ce temps, Valentine remportera de beaux succès avec des expositions en France et à l'étranger, notamment à Londres ou aux États-Unis. Arrive la guerre 39-40, qui amène bien évidemment, hélas, avec elle son lot de misère. Et Zadkine, qui est juif, doit se sauver. Et elle, de son côté, elle essaiera en quelque sorte de sauver les meubles, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas les créations de son mari, faisant de son mieux pour se maintenir à flot et continuer à peindre. Ils se retrouveront à la fin de la guerre, pauvres, fatigués après ces dures années, mais malgré tout, elle ne cessera de progresser dans sa vie, dans son œuvre, la consécration arrivant en 1963 lors d'une grande exposition à la galerie Katia Granoff, Katia Granoff étant l'une des plus célèbres galeristes de l'époque. Alors, ceci dit, Valentine Prax survivra à son mari, et comme bon nombre de femmes d'artistes et qui croyaient au talent de leur mari ou compagnon, comme il semblerait que ce soit le cas pour Sophie Tauber ou Sonia Delaunay, Valentine Prax consacrera beaucoup d'énergie à honorer la mémoire de son mari en créant le musée Zadkine à Paris, qui sera inauguré par Jacques Chirac en 1982. Alors, profitons du fait que j'ai fait allusion à la galeriste Katia Granoff pour nous intéresser à elle. Alors, c'est une Française, mais d'origine ukrainienne, où elle est née en 1895. Elle fera des études en Suisse, passera une licence de lettres, puis s'installera à Paris, où elle deviendra une des galeristes les plus célèbres de Paris en exposant les artistes qui sont les grands noms d'aujourd'hui. Alors, passant d'un succès à l'autre, elle ouvrira également des galeries en Normandie, à Honfleur, et dans le Midi, à Cannes. Elle prendra également le parti d'exposer des femmes, notamment la sculptrice Chana Roloff, que j'ai présentée plus avant, des peintres, dont l'une d'elles, l'aquarelliste, pastelliste et lithographe française nommée Anne Français, qui inventera l'ionisme en peinture. Alors, qu'est-ce que l'ionisme ? De quoi m'intriguer aussi, j'ai cherché sur Internet et vu notamment sur Wikipédia que Anne Français s'inspirait d'une école de pensée de la Grèce antique promulguée par les philosophes Thalès et Héraclite qui faisait référence à la nature et à ses principes fondateurs, ici transposés à la peinture. Et d'après ce que j'ai compris d'Anne Français, pour réaliser ses peintures, elle décomposait ce qu'elle voyait à l'aide de traits, de points ou de triangles. Mais son travail est aussi en relation avec sa rencontre du peintre français André Hutter. Alors, je rappelle en passant qu'André Hutter était le mari de Suzanne Valadon et qui lui privilégiait la lumière et incita apparemment Anne Français à la prendre en compte. Et de plus, pour développer sa théorie et sa technique, elle intégra, joua avec des vides qui composaient sa toile. Enfin, il semblerait que le but était de générer davantage de vie et de créativité. Alors, je me suis penchée sur ces toiles pour vérifier et ressentir l'effet produit. Or, malheureusement, ce n'est que sur Internet, mais du peu que j'ai vu, en effet, ça vibre. Alors, le critique d'art Gérald Schur donne une définition assez claire de l'ionisme, même si elle reste très succincte, et je vous la lis. Alors, style ioniste, des images claires et baroques dont le dessin est tracé par des couleurs en hachure. Bon, évidemment, le mieux c'est encore d'aller voir soi-même et de s'intéresser de plus près à la démarche de cette peintre. Alors, à ce sujet, il semblerait que Anne Français ait beaucoup écrit et disserté sur son travail, et elle aurait expliqué sa théorie dans un livre de mémoire intitulé « Un monstre XXe siècle » et elle a publié dans une revue de philosophie de l'art intitulée « Absence » qu'elle aurait créée en 1955. Par contre, il semblerait aussi que ce soit difficile de trouver ses écrits à l'heure actuelle. Enfin, apparemment, cette peintre, Anne Français, a intrigué bien des initiés de l'art autour d'elle, de par sa façon très personnelle et insolite d'aborder son travail artistique. Mais revenons à la personnalité de Katia Granoff, qui, en dehors de ses activités de galeriste, manifestait des talents de poétesse. Alors, certains de ses poèmes auront été diffusés et lus par les comédiens célèbres de l'époque, comme Fernand Ledoux ou Pierre Brasseur, qui, vous ne le savez peut-être pas, est le père de Claude Brasseur. Claude Brasseur, d'ailleurs, a beaucoup tourné dans les années 70. Il avait interprété Vidocq, entre autres. Enfin, c'est une famille d'artistes comédiens et le fils de Claude Brasseur ne déroge pas apparemment à la règle. Mais revenons à Katia Granoff. Alors, parmi ses autres travaux littéraires, ce seront également des traductions de poésie russe. Elle en recevra reconnaissance au travers du prix réputé à l'époque, le prix Georges Dupont de l'Académie française, pour son anthologie de la poésie russe. Et elle reçut d'autres nombreuses récompenses, dont encore un prix de l'Académie française en 1966 pour son recueil « La colonne et la rose ». Elle sera en outre l'auteur d'un recueil de poèmes en alexandrin intitulé « Les amants maudits », apparemment tout un programme. Et il est dit que c'était une femme qui débordait d'énergie et de générosité, et elle terminera sa longue vie à Paris à l'âge de 93 ans. Alors nous allons faire une petite pause musicale. Cette fois-ci, je vais vous présenter une compositrice française de ce début du XXe siècle nommée Germaine Taillefer, qui a fréquenté tous ces artistes, peintres, sculpteurs et musiciens, puisqu'elle fit partie d'un groupe de compositeurs français qui a été désigné comme étant le groupe des six par le critique musical Henri Collet, en référence et en mémoire au groupe des cinq qui concernait lui cinq musiciens russes. Et elle était la seule femme parmi ses compositeurs réunissant Louis Duret, Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Francis Poulenc. Alors il faut dire à son actif que Germaine Taillefer avait commencé très jeune l'étude du piano, et ce grâce à sa mère, et c'est tout aussi précocement qu'elle composera. Or, malgré l'opposition de son père qui refusera de financer ses études musicales motivées par des idées rétrogrades et sexistes, elle continuera quand même et persévérera en les finançant elle-même grâce à des cours de musique dispensés à des élèves. Entre-temps, elle raflera quelques premiers prix, celui d'harmonie du conservatoire, de composition et d'accompagnement. Et tous ses amis compositeurs, les rencontrera avec les artistes peintres, sculpteurs, en se plongeant dans le Paris des années 20-30. Et ce groupe de musiciens restera soudé toute leur existence, même après leur collaboration. Alors, dans sa vie de musicienne, elle rencontrera le compositeur Erik Satie, qui justement lui fera connaître ses amis musiciens, et également le compositeur Maurice Ravel, qui la conseillera. Alors, sa vie maritale semble plus difficile. Apparemment, son mariage avec le caricaturiste américain Ralph Barton constituera davantage un handicap pour le développement de sa carrière qu'un bénéfice. En effet, celui-ci, jaloux du succès de son épouse, lui aurait barré le chemin, notamment en refusant qu'elle compose pour leur ami commun, Charlie Chaplin. Cependant, elle recevra d'autres commandes, et notamment de Paul Claudel. Et le couple ne résistera pas aux pressions extérieures et à l'entêtement conjugué de Germaine Taillefer pour poursuivre sa carrière. Aussi, divorceront-ils, et Ralph Barton, peu de temps après, se suicidera. Alors, féministe dans son œuvre, on peut le comprendre, elle composera six chansons françaises, un ensemble de mélodies composées à partir de textes qui abordent la condition féminine du XVe au XVIIIe siècle. Alors, son second époux, de qui elle aura une fille, se posera également en obstacle à sa carrière, mais encore, elle s'accroche, persévère, compose toujours et au final divorce une seconde fois. Alors, je ne peux m'empêcher de vous faire remarquer cette constante au cours de son existence, à savoir que les hommes de la sphère privée qu'ils soient père ou mari, se sont toujours opposés à son développement artistique, alors que les hommes artistes évoluant dans sa sphère professionnelle l'ont toujours soutenu et orienté positivement. Alors, c'est une petite aparté que je fais, car ces répétitions m'interpellent, et peut-être que c'est également le cas pour vous. Alors, Germaine Taillefer s'est montrée très créative. Elle a composé des cantates, des concertos, des sonates, des musiques de ballet, des opéras, des musiques de films, car elle a été souvent sollicitée dans ce sens. Alors, pour résumer globalement son travail, je vais vous lire ce que son ami compositeur Darius Milhaud disait d'elle, et je vous le lis. C'est une délicieuse musicienne qui travaille lentement et sûrement. Sa musique a l'immense mérite d'être sans prétention, cela à cause d'une sincérité des plus attachantes. C'est vraiment de la musique de jeune fille, au sens le plus exquis de ce mot, d'une fraîcheur telle que l'on peut dire que c'est de la musique qui sent bon. Et sur ces belles paroles, je vous propose d'écouter Fandango, qui date de 1920, composé par Germaine Taillefer. Après ce petit intermède avenant et enlevé, revenons à nos artistes peintres. Alors, l'une d'elles, née également au début du XXe siècle, en 1901, illustrera les poèmes de Katia Granoff, et il s'agit d'Edith d'Estern, fille du peintre Louis d'Estern et sœur d'une historienne écrivaine, Suzanne d'Estern, qui aura écrit notamment sur l'impératrice Eugénie, Napoléon III, et aussi sur les musiciennes comme Lama Libran et Pauline Viardot, dont je vous ai fait écouter une des compositions. Alors, Edith d'Estern était l'élève et la muse d'un peintre brésilien naturalisé français, nommé Gaston Somoès de Fonseca. Elle exposera avec lui rue de Seine à Paris, aussi avec le philosophe écrivain Jean Guiton, membre de l'Académie française, qu'elle encouragera dans la voie picturale. Alors, aquarelliste surtout, ses thèmes d'inspiration étaient la région du Bourbonnais, l'Espagne, entre autres des bouquets de fleurs. Bon, j'ai essayé de trouver ses créations, mais c'est un peu difficile. Il me semblerait qu'elle oscille par moments entre le figuratif et l'abstrait. Alors, il est dit qu'elle a également réalisé des portraits, notamment d'écrivains, comme celui d'Anaïs Nin, dont je vous ai parlé les émissions d'avant, Virginia Woolf, hein, je n'en ai pas encore parlé, mais ça va venir, ou Marcel Proust. Et dans la suite de sa carrière, elle s'orientera vers la peinture sur verre et obtiendra le grand prix du Gemäi à Lourdes. Alors, le Gemäi étant un art du verre qui nécessite une technique bien particulière de manière à jouer avec les couleurs et les transparences de lumière. Alors, pour revenir aux femmes, notamment épouses de ces artistes célèbres, il y eut aussi la Suédoise Greta Knudsen, née en 1899, et qui, elle, fut l'épouse de l'écrivain poète roumain Tristan Tzara, et comme vous le savez, l'un des fondateurs du mouvement Dada. Alors, elle était peintre, a suivi son chemin en développant une palette harmonieuse d'aplats colorés entre l'abstrait et le figuratif, et elle est considérée plutôt comme une artiste peintre moderniste. Alors maintenant, pour aborder la personnalité qui va suivre, je dois vous rappeler que j'ai mentionné le nom dans les dernières émissions du peintre mexicain Diego Rivera, qui lui aussi est venu en Europe, notamment à Paris, pour étudier, travailler et accessoirement engrosser la peintre russe Marevna présentée précédemment. Alors, vous me rétorquerez qu'il s'agit toujours de création, hein, même si le travail le plus laborieux revient quand même à la dame. Mais revenons à Diego Rivera, que je mentionne ici pour vous rappeler qu'il est lié de près à l'existence de la peintre mexicaine Frida Kahlo, dont vous avez certainement entendu parler cette fin de 20e, début du 21e siècle, à cause de son destin douloureux et de sa personnalité atypique. Et en effet, ces deux artistes-là, Diego Rivera et Frida Kahlo, étaient mariés. Divorcés un moment, ils se sont même remariés ensemble une nouvelle fois. Et quoique de mœurs très libres chacun, ils ont quand même cheminé longtemps ensemble, au moins jusqu'au décès de Frida Kahlo, survenu précocement à l'âge de 47 ans. Alors parlons un peu de Frida Kahlo, même si elle est très connue par le public à cause de sa peinture douloureuse, née de ses graves problèmes de santé et de sa relation avec Diego Rivera, et aussi par l'engouement qu'elle a suscité dans le monde de l'art, puisque nombre d'expositions lui ont été consacrées dès la seconde moitié du XXe siècle. Et je me souviens d'une à Paris où je m'étais déplacée. Et sans compter que le monde du cinéma s'est aussi intéressé à elle. Alors, souvenez-vous de ce dernier film intitulé Frida, qui est sorti sur la toile en 2002. Il a été réalisé par une femme, Julie Temor, pour retracer les grandes étapes de sa vie. Or, Frida Kahlo est une peintre mexicaine, je vous l'ai dit, bien que son père ait été allemand. Sa mère était mexicaine et elle-même a vécu toute sa vie dans ce pays. Et quoi qu'il en soit, elle fait partie de ces personnalités incontournables, comme l'est d'ailleurs le peintre mexicain Diego Rivera, qui fut bien intégré dans le monde artistique de l'époque, surtout connu pour ses grandes fresques murales réalisées dans son pays principalement. Or, de plus, ses idées politiques ont fait qu'il a pris position et été considéré comme un peintre engagé, ce qui lui a valu également quelques déconfitures, notamment son exclusion du Parti communiste. Alors Frida Kahlo, elle aussi se positionne comme une communiste, une femme engagée, féministe, anticonformiste à tout point de vue. Elle vivra même, dit-on, une liaison amoureuse avec le politique communiste russe Léon Trotsky. Il n'en reste pas moins vrai que le destin de cette femme est pathétique dans le sens où elle aura été à maintes reprises terrassée par la maladie et donc le handicap, avec bien évidemment la douleur qui accompagne tout cela, autant physique que morale, hein, certainement, mais elle fera face. Alors, pour retracer son parcours, hein, toute petite déjà, elle contracte la poliomyélite, qui la rend boiteuse, ce qui lui vaudra moquerie de ses camarades, et ensuite, jeune fille, prête à entamer des études de médecine, elle est quasiment empalée lors d'un accident de la route, et elle en gardera des séquelles toute sa vie, en passant par mille souffrances. En outre, elle mettra au monde des enfants morts-nés, ce qui affectera sa vie de femme, et elle subira vers la fin de sa courte existence l'amputation d'un membre. Or, dans sa façon d'exister, par son anticonformisme, sa façon d'être, ses liaisons amoureuses, bon, c'était sa manière de narguer le destin en bravant continuellement la mort, elle arrachait certainement à la vie tout le suc possible, offrant ainsi au monde une figure insolite et particulière. Alors, dans son parcours artistique, par sa peinture, elle raconte sa vie et c'est une forme d'autobiographie que l'on peut suivre en images. Et de sa peinture, elle dira d'ailleurs « Ma peinture porte en elle le message de la douleur ». Donc c'est tout dire. Alors voilà pour Frida Kahlo que je ne pouvais pas passer sous silence, hein, car c'est une figure quand même particulière. Certaines femmes ne sont pas toujours liées à des artistes masculins, mais nous verrons cela la prochaine émission. Je rappelle que vous écoutez cette émission, La Voix des Arts, sur notre radio locale basée à Coulounier-Chamier, à côté de Périgueux, radio libre en Périgord, 102.3, que vous pouvez les écouter sur Internet, également en direct sur le site de la radio ou en podcast à www.radiolibreenperigord.com, hein, radio libre au pluriel. Je rappelle les horaires de la Voix des Arts, lundi 13h30, jeudi 17h30 et samedi 11h30. Et je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous dans quelques jours en compagnie des femmes artistes et de moi-même, bien sûr. La Voix des Arts, présenté par Christine Darboux.